بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. شفاق، j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous vous êtes bien reposé. Donc, ayant passé un long moment ensemble hier à parler de l'importance de l'étude de la science religieuse et des étapes par lesquelles doivent passer l'étudiant, on a choisi de parler ce matin, inshallah, ensemble de ce qu'on appelle le mu'awwiqat. Le mu'awwiqat, ce sont les obstacles, ce qui empêche l'étudiant d'étudier. Ce sont 10 points par lesquels, en général, les étudiants passent, ou bien auxquels les étudiants sont confrontés. Ce sont des impressions, des ressentiments, des fois des fausses excuses qui poussent le croyant, ou bien qui cherchent à le convaincre qu'il n'est pas fait pour la science. Juste avant de commencer, je vais revenir sur un point important. Hier, il y a quelques frères qui ont demandé, ou du moins qui ont montré leur perplexité concernant le programme, concernant les livres qu'il faut aborder. Donc, si vous vous souvenez bien, on a cité dans chaque matière quelques titres de livres par lesquels il fallait commencer. D'accord ? Bord al-Arabiya, kada kada kada, dans le fiqh, kada kada kada, ila akhirih. Apparemment, les frères, ils ont trouvé, enfin, certains parmi eux, que ce programme n'était pas clair et qu'à la fin, ils ne savaient plus trop quoi faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre, donc, par exemple, Kitab al-Ilm, Cheikh al-Uthaymin, dans lequel il y a un chapitre consacré à cela, les noms des livres que l'étudiant doit étudier, donc, et l'ordre dans lequel ceci doit avoir lieu. C'est plus ou moins ce que je vous ai dit hier. Donc, si c'était un peu rapide pour vous, inchallah, vous revenez à l'enregistrement et vous écouterez donc chez vous le titre de chacun de ces livres et vous les noterez. Al-Muhim. Donc, pour ne pas perdre de temps, on commence, inshallah. Donc, je vous ai parlé hier du livre de Cheikh Sadhan, qui s'appelle Ma'alim fi tariq talab al-ilm. Donc, Ma'alim, ce sont des enseignements, des phares dans le chemin de l'apprentissage de la science, de la quête de la science. Et donc, comme je vous le disais hier, ce livre-là est très très profitable et regorge de leçons, de morale et de conseils. Cheikh Sadhan, hafidahullah, qui a côtoyé les grands savants morts et vivants, nous parle de ses expériences personnelles, ce qui nous rapproche de lui et nous fait prendre conscience qu'on n'est pas tout seul. Et très souvent, quand on étudie et qu'on n'arrive pas et qu'on sent que c'est dur, on a l'impression que c'est que nous. On se dit, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Là, quand on lit des livres comme cela, on se rend compte en fait qu'on est tous confrontés au même problème. Quel que soit notre âge, notre origine ou le pays dans lequel on se trouve ou bien avec qui on est. C'est pour ça que c'est bien des fois que des gens comme nous nous parlent de leur expérience personnelle. C'est vrai, c'est toujours important de symboliser les paroles, les enseignements qu'on donne avec l'attitude des salafs. Mais des fois, toujours dans nos têtes, on se dit, ouais, mais quand même, les salafs, c'est les salafs, et c'est les meilleurs, et c'est les plus pieux, et kada, et kada. C'est comme si on cherchait une excuse. C'est comme si on essayait de se rassurer. En se disant, mais attends, quand même, les salafs, c'est les meilleurs, donc forcément, on n'arrivera jamais à leur cheville. Alors, c'est pour ça que des fois, il est bien de parler de ses propres expériences. Hein? Des expériences personnelles. À des gens donc qui nous sont homogènes, c'est-à-dire on a à peu près le même âge, on a vécu à peu près dans les mêmes conditions, on vient à peu près des mêmes endroits, hein, li'alla yakuna lin-nas hujjah, pour que les gens n'aient plus d'excuses à dire ouais mais les autres là-bas c'est normal, ils sont en Arabie Saoudite, il y a des savants, c'est normal qu'ils y arrivent, ou bien les frères là-bas c'est normal qu'ils y arrivent, ils ont étudié dans tel pays, ou bien les frères là-bas. Il y a des frères qui sont comme vous ici en France, qui n'ont jamais mis un pied à l'étranger et qui y arrivent. Donc il faut arrêter de se chercher des excuses. Il faut arrêter d'essayer de rassurer son âme dans le fait d'abandonner. Al-Muhim, il y a des obstacles. Donc il y a un chemin qu'on suit pour apprendre la science. Et sur ce chemin, il y a des obstacles. Quels sont-ils? Donc le Cheikh dans son livre, il en cite 10. Donc on va les lire et inshallah faire une légère explication. Qala hafidhahullah al-mu'awwiq al-awwal fasad an-niyyah. والنية هي ركن العمل وأساسه وإذا تخللها خلل أو دخن فإن العمل يعتريه من الخلل والدخن بقدر ما يعتري النية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Premier obstacle, la corruption de l'intention. L'intention, comme vous le savez tous, c'est le fondement de l'action et sa base. Si elle est corrompue par quelque chose de flou, alors forcément, cette corruption aura des répercussions sur l'action en équivalence avec la corruption. Donc les répercussions qu'il y aura sur l'action seront en équivalence avec la corruption qu'il y a sur l'intention. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'mal bin-niyyat, les actes ne valent que par les intentions. Wa innama likulli imrin ma nawa. Et chaque personne aura, sèmera de son action qu'est-ce qu'il a eu comme intention. فالنية ركن كما سبق والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم تبن أركان فإذا كانت النية مصحوبة بشيء من اللوث على اختلاف أنواعه من حب تصدر أو حب شهوة أو تسنم مجالس فإن هذا كفيل بأن يكون حاجزا منيعا في طريق صاحب تلك النية. Donc on a dit que l'intention est un pilier. Et là il y a un petit bait. Quand on dit un bait, c'est un vers poétique. La maison ne peut être bâtie qu'avec des piliers. Et comment y aura-t-il de piliers s'il n'y a pas de fondation? La maison ne peut tenir qu'avec des piliers. Et comment les piliers peuvent tenir s'il n'y a pas de fondation? Donc, si l'intention est accompagnée par quelques salissures, quelles qu'elles soient, comme Hubbu at-tasaddur. At-tasaddur, c'est le fait de se mettre en avant. Le fait de se mettre en avant. Il y a des gens qui salissent, qui corrompent leur intention en voulant, quand ils font da'wah masalan, ou bien quand ils font des cours, ou bien quand ils apprennent la science, leur intention à la base, elle est salie par cela. Ils aiment se mettre en avant. Ou bien, hub al-shuhra. Hub al-shuhra, c'est le fait d'aimer être célèbre. Que les gens parlent de nous, que les gens nous connaissent. Ou tasannum majalis. Tasannum, c'est le fait d'être au-dessus. Ah, wa min dhalika qawl as-summiya ish sinam yani al-jamal aw al-ibil wal jihad zirwatu sanami. وهذه المادة اللغوية المكونة من سين نين والميم تدل على العلو ومنه ومزاجه من تسنيم قال المفسرون تسنيم عين يجري في الهواء في الجنة عين يجري في الهواء في الجنة سنم التسنيم أو السنام وما شبه ذلك دونك تسنيم المجالس أو تسنم المجالس c'est le fait quand il y a une assise de vouloir être le plus haut, pas réellement, concrètement, mais yani celui qui se sent être comme étant le meilleur de la six. Hein, le mot tasannum, ça vient du mot sanam, qui est la bosse du chameau. On appelle la bosse du chameau sanam, parce que les mots qui sont composés de ces trois lettres, as-sin, wan-nun, wal-mim, ont toutes, tous ces mots-là ont une nuance commune, qui est ce qui est haut, ce qui est en hauteur. Et ça, ce rythme-là, de connaître les nuances des mots en fonction de la base linguistique ou bien de la base lettrale du mot, c'est très important. Et il y a un livre que je vous conseille à tous de lire et d'avoir, quand vous aurez, Inch'Allah, en fonction de votre niveau en arabe, c'est pas un livre bien entendu à lire au début, qui s'appelle Kitab Fiqh al-Lughah. De Al-Tha'alibi. Al-Tha'alibi, هذا, rahimahullah, il a écrit un livre magnifique, Fiqh al-Lughah wa Asrar, yani al-Lughah al-Arabiyya. C'est la jurisprudence de la langue. Et si vous voulez, c'est comme une sorte de dictionnaire, il est divisé en deux parties. La première, c'est une sorte de dictionnaire par champs lexicaux. Ça veut dire que tu as, premier chapitre, tout ce qui a un rapport avec les événements naturels. Alors, petit a, le vent. Et il te sort un paragraphe avec les mots que les Arabes emploient pour désigner le vent. Le vent, quand il est comme ça, il s'appelle comme ça. Et quand il est comme ça, il s'appelle comme ça. Et quand il est là-bas, il s'appelle comme ça, et ainsi de suite. Deuxièmement, les nuages. Les nuages, donc al-ramam, après les nuages en arabe, on dit tel mot dans tel contexte, tel mot dans telle circonstance, tel mot dans tel état, et ainsi de suite. Et là, vous verrez la complexité et aussi la perfection de la langue arabe. Et surtout, ça aide à comprendre mieux le Coran. Pourquoi? Notamment dans Ma'arab Fasas al-Anbiya. Wa ala sabil al-mithal Moussa alayhi salam. Dans le contexte des histoires prophétiques. Et en particulier avec Moussa alayhi salam, car vous remarquez que l'histoire du prophète qui revient le plus dans le Coran, c'est celle de Moussa alayhi salam. Et très souvent dans le Coran, on trouve, à des sourates différentes, la même histoire décrite ou bien exprimée différemment. Des fois, la nuance, elle tient sur un mot ou deux. Pourquoi? Sachez que l'emploi du mot différent a un but particulier, c'est de nous apporter un élément supplémentaire. Et ce livre-là, il aide beaucoup dans la compréhension de ces nuances. La seconde partie de ce livre-là, c'est les asrar, les secrets. Et là, c'est vraiment, tu rentres dans la matrice. Et, il ramène des fawa'id et des qawa'id, masha'Allah, magnifique. Il y a un autre livre très important aussi, c'est Maqayis al-Lugha d'Ibn Faris. Maqayis al-Lugha, c'est un dictionnaire qui classe les mots par leur base lettrale, pas la base linguistique. La base lettrale, ça veut dire quoi? Par les lettres de base qui forment le mot. Donc on a plein de mots. Mais chacun de ces mots, il est formé sur des lettres. Et à partir de la forme du mot, alors les lettres de base seront toujours présentes, mais il y aura d'autres lettres qui y seront rajoutées en fonction donc du cas. Lui, il ramène la base du mot. Et après, il te donne le sens de base de ce mot-là, c'est ça. Exemple, quand la madda, dernier, comment? Non, c'est le madda. La madda, c'est la matière, la matière du mot, c'est le djinn et le noun. Le djinn, pardon, et le noun. Tout ce qui est, tout ce qui a cette base lettrale, elle aura un contexte de dissimulation, quelque chose de caché. Après, il te sort les mots qui ont ces lettres en eux et qui ont cette nuance de dissimulation, même si ces mots entre eux n'ont pas le même sens. Donc il y a al-jinn, le démon, qui est caché à nos yeux, on ne le voit pas. Il y a al-janin. Janin, c'est le fœtus qui est dans le ventre de la mère et qu'on ne voit pas. Ne parlez pas d'échographie, s'il vous plaît. On a al-jannah. Jannah, qalu al-bustan al-kathir al-ashjar. Al-jannah, c'est un jardin dans lequel il y a énormément d'arbres. C'est-à-dire que si tu passes au-dessus, à cause des feuilles, des arbres, tu ne peux pas voir ce qu'il y a en dessous. Al-jannah, dar, hadihi dar allati a'addaha Allah li'ibadihi as-salihin. Sallallahu alayhi wa sallam, wa iyaikum min ahliha. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة le paradis, cette demeure qu'Allah Ta'ala a préparé pour ses serviteurs les plus pieux, qu'Allah y fasse que nous en fassions partie. Yani, personne ne l'a jamais vu ni entendu ni ne peut l'imaginer. On a Al-Junna, c'est le bouclier. C'est le bouclier avec lequel le soldat se protège des flèches ou des attaques adverses. Donc toi, en tant qu'ennemi, tu ne le vois pas derrière son bouclier. Wahakad. Donc ce dictionnaire, il est très, très, très important. Et le talab ilm, il doit l'avoir. Le talab ilm, il doit l'avoir. Donc revenons à ce qu'on disait. Tassannum majalis. Il y a une jalsa, une assise, il y a du monde. Et toi, Taniya, c'est, je veux être zahrat hadhihi jalsa. Je veux être la star de cette assise. Al-Muhim, quand l'intention elle est salie par ce genre de corruption, tu peux être sûr que ça va être une barrière qui empêchera celui qui a cette niya d'avancer dans le chemin de la quête de la science. وَالنِّيَّةُ يَعْتَرِيهَا مَا يَعْتَرِيهَا لَكِنْ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وإن الله لمع المحسنين. وسفيان الثوري رحمه الله على ورعه وجلالة قدره يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وإذا كان هذا الإمام الثوري فما بالك بنا نحن. فلذلك ينبغي أن يكون الواحد منا متجردا في طلبه للعلم لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل. فإن صاحب النية ما صاحبها من تلبيس إبليس فإن هذا ليس بغريب. وإنما الغريب والعجيب أن يستمرئ صاحبها بقاء تلك اللوثات في نيته. فلزاما عليه أن يجاهدها وأن يحارب ذلك اللوث والدخن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا يفترن أو ييأسن وليقرأ ما ذكر أهل العلم عن أنفسهم. فهذا الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر أمير المؤمنين في الحديث يقول رحمه الله طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يفسر بعضهم هذه المقالة بأن الطالب قد يكون في نفسه حظ من حب التصدر، فإذا أغلى في العلم وقرأ النصوص والسير وتمعن فيها وكان ممن أراد الله به خيرا رده إلى رشده، ولم يزده ذلك التمعن إلا رجوعا إلى جادة الصواب والخير. أما إذا كان ممن غلب هواه واتبع شهوته فلا يلوم إلا نفسه. Al-Niyya, l'intention, mes frères, elle est touchée parce qu'elle est touchée. Ne croyez pas que tout le monde y vient, les gens y viennent, ils ont la niya pure du début à la fin. La niya, elle est touchée forcément. Mais, Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui fournissent leur effort pour nous, يعني en nous, يعني en Allah, tabaraka wa ta'ala, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Certes, nous les guiderons vers nos chemins. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et certes, Allah est avec les bienfaisants. Soufiane al-Thawri, rahimahullah, connu pour sa piété, connu pour sa science, il disait, je n'ai pas cherché de soigner mon âme d'une chose plus dure que l'intention. Al-Muhim, la chose la plus dure que j'ai eu à soigner en moi, c'est l'intention. J'ai rien trouvé de plus dur que cela. Soufiane al-Thawri, rahimahullah, il dit ça. Combien de fois des frères ils viennent me voir? Il me dit, Akhi, j'ai peur, mania, j'ai peur, mania. Akhi, on a tous peur. Celui qui n'a pas peur pour sa niya, c'est le munafiq. Lui, il est clair, il est tranquille dans sa tête. Parce qu'il sait très bien que lui, il veut pas Allah Azza wa Jalla. Mais le fait que tu aies peur pour ta niya, dalilun ala inshallah sidqi niyati. Le fait que tu aies peur pour ta niya, c'est une preuve que tu as une bonne intention. Moi, beaucoup de frères viennent me voir, j'ai peur pour ma niya. Encore jamais, jusqu'à présent, j'espère que ça ne sera jamais le cas. Il y en a qui se viennent me voir, j'ai peur, j'ai pas peur pour ma niya. J'ai peur de pas avoir peur pour ma niya. Allez, jamais quelqu'un est venu me voir, ah, c'est bizarre, je ressens pas de peur pour ma niya. C'est ça, c'est ses frères-là, ils viennent me voir. J'irsha ala nafsika, akhi, wa tahimha. Hada la yadullu ala akhi. Ah, mais les frères, ils m'ont dit, j'ai t'as vu, moi je suis là, des fois j'ai peur, je sais pas si je fais ça pour Allah. On est tous comme ça. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il disait, لو علمت أن الله تقبل مني سجدة لكان ذلك خير لي أو خيرا لي من الدنيا وما فيها. قالوا ولم ذلك يا أبا عبد الله أو أبا العباس؟ قال لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ابن عباس صاحب رسول الله ترجمان القرآن رضي الله عنه. Il disait, si je savais qu'Allah a accepté de moi une prosternation, ce serait meilleur pour moi que ce bas monde de ce qu'il contient. Allez, en gros, il ne sait même pas si Allah a accepté de lui une prosternation. Et qui parmi nous ici peut venir dire, Allah il a accepté de moi telle action? Man yazmanu laka dhalik? Qui te garantit cela? Personne. Je ne sais pas. Anta ta'mal wa tarju Allah. Toi tu fais les actions et tu espères qu'Allah il accepte l'action. Wa farq fi istilah al-fuqaha bayna sihhati al-amal wa qabulih. Il y a une distinction chez les savants entre, dans la terminologie qu'ils emploient, entre une action valide et une action acceptée. Une action valide, allati tammat fiha ash-shurut wa intafat fiha al-mawani'. Une action valide, c'est celle dont les conditions ont été respectées et les annulations ont été éloignées. Maintenant, est-ce que ça veut dire que chaque action valide, elle est acceptée? Non! Tu sais pas toi si tes actions sont acceptées. Parce que, enfin, tu connais pas la valeur de ta niya. Donc, Ibn Abbas, il dit, je sais pas si Allah, il m'accepte une prosternation, ce sera meilleur pour moi que ce moment de ce qu'il contient. Il nous dit, comment ça? Il a répondu, parce qu'Allah, dans le Coran, il dit, Allah n'accepte que de la part des pieux. C'est-à-dire que si Allah, il a accepté quelque chose de toi, c'est-à-dire que t'es un pieux. Mais est-ce que toi, t'as reçu un fax ou quelque chose qui t'indique que ton action elle est acceptée? Ma ta'arif had. Donc ça, c'est le jihad du croyant. Hatta même, on a demandé à un shir, jusqu'à quand on se battra comme ça pour notre niya? Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ça ne s'arrêtera pas, le mouhim. Cette bataille qu'il y a entre toi et ta niya ne s'arrêtera que quand tu rendras l'âme à Allah, tabaraka wa ta'ala. Il ne faut pas en faire une barrière qui t'empêchera de faire le reste. Donc si l'imam Soufyan al-Thawri rahimahullah dit ça, qu'est-ce que nous on doit dire? Qu'est-ce que nous on doit faire? Si Soufyan al-Thawri rahimahullah il dit, j'ai pas eu une chose à soigner en moi plus dure que mon intention, toi tu crois que tu vas venir, tu vas y arriver. Allez frère, c'est notre combat perpétuel. Ce combat ne doit pas être une raison de tout abandonner. C'est pour cela qu'il faut absolument que l'un d'entre nous se dévoue dans son apprentissage de la science et dénue son attention de tout ce qui pourrait la salir. Qu'il n'a comme but en apprenant la science que l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sachez que l'intention, en général, est accompagnée par des usurpations sataniques. Des usurpations sataniques, des déguisements démoniaques. Ça, c'est pas étrange. Ce que Iblis l'a juré. Bi'izzatika la'urwiyannahum ajma'in. Il a juré devant Allah Azza wa Jal qu'il tenterait tous, yani qu'il tenterait de tous nous égarer. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Hein? Ne croyez pas qu'Iblis va vous laisser tranquille. Ma yumkin hada. C'est comme les juifs, ils ont été voir les musulmans, ils leur ont dit, ah, nous quand on prie, pas un waswas. Rien. Des pierres. Et vous là, vous priez, vous pensez à tout. Là, les musulmans se sont sentis battus par les juifs dans cette argumentation, dans ce débat. Ils ont été voir Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Ils ont dit, ya Aba Abdillah, innahum yaskharuna minna, ils se moquent de nous. Ils disent, kada wa kada. Qu'est-ce qu'il a dit à Abdullah ibn Mas'ud? Les gens intelligents. Il dit, ماذا يصنع الشيطان بقلب خراب? Et qu'est-ce que le shaitan il va faire d'un cœur qui est déjà détruit? Il le calcule pas, il le laisse. Ça y est, c'est bon, toi t'es un juif, c'est mort. Personne ne perd son temps sur lui. Le shaitan il se préoccupe de vous, les croyants, qui voulaient l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est vous, sa cible. Donc c'est pas étrange, bizarre, spécial que le shaitan nous embête. C'est pas étrange. Ce qui est étrange, c'est que quelqu'un qui sait que son intention est salée par ce genre de corruption, le fait de vouloir être mis en avant, le fait de vouloir qu'on parle sur nous, ou ne parle de nous, je crois pas qu'on veuille qu'on parle sur nous, le fait de vouloir être le meilleur dans une assise, c'est le fait, ce qui est étrange, c'est que tu saches que tu as ces corruptions dans ton intention, mais que tu ne fasses rien pour purifier ton intention de ces éléments-là. Donc ce qui est obligatoire pour toi, c'est de combattre, de faire des efforts pour purifier ton cœur, tant que tu en es capable. Et surtout, n'interromps pas ta quête de la science, et surtout, ne désespère pas. Et pour t'encourager, lis la parole des plus prédécesseurs et la parole des grands savants. Par exemple, Dharqutni, rahimahullah, un grand imam du hadith, il disait, طَلَبْنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَأَبَا أَيْ يَكُونَ إِلَّا لِلَّهِ. On a demandé la science pour autre qu'Allah, cette science a refusé d'être pour autre qu'Allah. Allez, au départ, ils ont commencé à prendre la science pour des raisons diverses, autres que le fait de vouloir Allah tabaraka wa ta'ala. Mais subhanallah, ils sont rentrés dans la science, et ils ont commencé à lire les textes, à lire les biographies des gens vertueux et pieux. Ils ont commencé à réfléchir, et Allah ta'ala a voulu pour eux du bien, et il a redressé leur voix. Il a redressé leur voix. Ce qui a fait que cette compréhension, cette réflexion, n'a eu d'effet sur lui que de le ramener vers le bon chemin. Quant à celui qui préfère suivre ses passions et ses fantasmes, qu'il ne se plaigne que de lui-même. Qu'il ne se plaigne que de lui-même. Yani celui qui sait qu'il y a des corruptions dans son intention et qui s'obstine dedans sans chercher à changer, yani qu'il ne se plaigne pas aux autres de son état par la suite. Le seul responsable, c'est lui-même. Deuxièmement, المعوق الثاني حب الشهرة وحب التصدر وهو داخل تحت النية ولكن يفرض لأهميته والشهرة والتصدر داء وبيل لا يسلم منه إلا من عصمه الله كما قال الشاطبي رحمه الله آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر. Deuxième obstacle, le fait, c'est un découlement du premier, le fait d'aimer, de vouloir être célèbre, et le fait d'aimer, de vouloir se mettre en avant. Et ça rentre dans l'intention. Mais on en fait un obstacle particulier pour son importance, c'est ça, gravité et son danger. Al-shuhra, la célébrité, wa tasaddur, le fait de se mettre en avant, c'est une maladie grave dont personne n'est épargné, sauf celui qu'Allah préserve. Al-Shatibi, rahimahullah, disait آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين. La dernière chose, écoutez cette parole comment elle est importante. La dernière chose qui quitte le cœur des vertueux, حب السلطة والتصدر. C'est l'amour du commandement et du fait de se mettre en avant. Et du fait de se mettre en avant. Les salihin, ils purifient leur cœur. Ils purifient leur intention. En fonction de leur capacité. Mais les dernières des choses qui quittent leur cœur comme corruption de l'intention, c'est ces deux choses-là. Le fait de vouloir avoir le commandement et le fait de vouloir se mettre en avant. فإذا كانت نية الطالب أن يشتهر اسمه وأن يرتفع ذكره وأن يكون مبجلا كلما حل أو رحل لا هم له إلا ذلك فقد أدخل نفسه مداخل خطيرة ويكفي أن نعرف حديثا واحدا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ثلاثة إلى أن قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما فعلت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذب ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار نسأل الله السلامة والعافية. Si l'intention de l'étudiant est que son nom, soit connu et que son évocation soit élevée et qu'il soit complimenté où qu'il se trouve, sa seule intention c'est cela. Regardez bien les nuances. Sa seule intention c'est cela. Il est certes rentré dans un territoire miné et extrêmement dangereux. Et il suffit qu'on connaisse un hadith dans ce cas-là. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: les premières personnes qu'on jugera le jour du jugement sont au nombre de trois. Jusqu'à ce qu'ils disent, yani le hadith il est raccourci pour qu'on arrive directement à ce qui nous intéresse ici. Et un homme qui a appris la science, qui l'a enseigné et qui lisait le Coran. On le fait comparaître et on lui fait reconnaître les bienfaits d'Allah Ta'ala sur lui. Et il les accepte, yani il les reconnaît. On lui dit: qu'est-ce que tu as fait pour ses bienfaits? Alors il répond: j'ai appris la science et je l'ai enseigné et j'ai appris le Coran pour toi. Yani, et j'ai lu le Coran pour toi, yani pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. On lui répondra: tu dis faux, mais tu as appris la science afin qu'on dise de toi, tu es un savant. Et tu as lu le Coran afin qu'on l'on dise de toi, tu es un lecteur. Et certes, on l'a dit. Et certes, on l'a dit. Dernier, en gros, tu as obtenu ce que tu voulais auprès de ceux pour qui tu as fait cette action. Tu n'auras donc rien de ma part. Ensuite, on donnera l'ordre. Il sera tiré sur son visage. فسحب على وجهه حتى ألقي في النار jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer qu'Allah nous en préserve. والحديث الآخر يا نعاي العرب أخوف ما أخاف عليكم الشرك والشهرة الخفية. قال ابن الأثير الشرك والشهوة الخفية. قال ابن الأثير إن الشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل. Notre hadith prodigé, alayhi salatu wa salam, ô vous les Arabes, ce que je crains le plus pour vous, c'est l'association et le désir caché. et le désir caché. Ibn al-Athir, c'est un savant kadhalik, un grand savant, qui a écrit Al-Nihayatu fi Gharib al-Hadith. C'est un dictionnaire, ça on tournerait dictionnaire, c'est un dictionnaire qui définit les mots compliqués qu'on trouve dans les hadiths. Et c'est arrivé parce que, donc c'est classé par ordre alphabétique, et toujours quand il y a le mot, il te donne le sens, et te ramène le hadith dans lequel il est cité. Donc le talib ilm, alayhi salam, il doit avoir ce livre-là aussi. Il dit, al-shahwa al-khafiyya, le désir caché, c'est le fait d'aimer à ce que les gens y voient tes actions. Quand tu fais des actions, t'aimerais bien que les gens te voient faire ces actions-là, wal-iyadu billah. وجاء عن الفاروق رضي الله عنه أنه عاتب أبيا عندما رأى الناس يمشون خلفه فنهره وزجره وقائلا كف عن هذا فإنها فتنة للمتبوع وذلة ومذلة للتابع. عمر رضي الله عنه إلى غبخش أبي بن كعب رضي الله عنه lorsqu'il a vu les gens marcher derrière lui, le suivait. Il lui a reproché brusquement, il lui a montré que c'était grave. Il lui a dit, arrête de faire ça. Laisse pas les gens marcher derrière toi. Car certes, c'est une tentation pour celui qui est suivi et une humiliation pour celui qui suit. وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضٌ مِنْ كُتُبِ نَعْمُ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضٌ مِنْ كُتُبِ مِنْ كُتُبِ مَنْ كَتَبَ بَعْضُ مَنْ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ مَنْ كَتَبَ فِي الرَّقَائِقِ وَالسُّلُوكِ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَمَنَّى أَوْ فَرِحَ أَنْ يُعَظَّمَ إِذَا دَخَلَ وأن يكون قصده مقصورا على إعجاب الناس به ومدحهم له فحسب فإن ذلك باب عظيم من أبواب الرياء والسمعة ومن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به فهذه الشهوة مصيبة إلا لمن ربط الله على قلبه. Certains savants disent que lorsque la personne espère ou est contente qu'on fasse ses éloges lorsqu'elle rentre quelque part. Lorsque son intention, elle est limitée à ce que les gens soient ébahis devant lui et le complimentent. C'est tout. Sachez que ceci est une des portes les plus immenses de l'ostentation, donc qu'elle soit physique ou sonore. Parce que l'ostentation, c'est le fait de se faire voir. Ça peut être donc physique, en se faisant voir, ou sonore en se faisant entendre. Et il a été dit, celui qui fait une ostentation, Allah dévoilera, il mettra au grand jour son intention. Et celui qui veut se faire entendre, eh bien Allah, il fera entendre parler de lui, mais pas dans le but qu'il convoitait. Pas dans le but qu'il convoitait. Celui qui veut se faire voir, eh bien Allah, il le fera voir, mais pas dans ce qu'il voulait qu'on le voie. Et celui qui veut se faire entendre, eh bien Allah il le fera entendre. Mais pas comme il voulait qu'on l'entende. Al-Fadiha wal-Iyadu Billah. Le scandale. Combien, Wallah, nas'al Allah sitra, qu'Allah il cache nos péchés. Et combien, Wallah, ils étaient là en train de dire, ouais, lui là-bas il fait ci, l'autre là-bas il fait ça, et l'autre là-bas il fait ça. Wa qalilan, ba'da dhalik, très peu de temps après, on a appris des choses abominables et monstrueuses. Des choses, yahtazu minhu sha'ru ar-ra's, qui font dresser les cheveux sur ta tête. C'est pour ça ta langue tiens-la bien. Ta langue tiens-la bien. Et ton attention, fais-y attention. Cette shahwa, cette envie que les gens ils voient qu'est-ce qu'on fait, c'est une catastrophe. Sauf pour celui à qui Allah a fermé le cœur. Wa kana salafu rahimahumullah ab'ad an-nas 'an hubb ash-shuhrah. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في ترجمة أيوب السختياني رحمه الله تعالى قال شعبة قال أيوب ذكرت ولا أحب أن أذكر وقال شعبة أيضا ربما ذهبت مع أيوب لحاجة فلا يدعني أمشي معه ويخرج منها هنا وها هنا لكي لا يفطن له وقال حماد كنت أمشي معه يعني أيوب فيأخذ في طرق إني لأعجب كيف يهتدي لها فرارا من الناس أن يقال هذا أيوب وقال بشر بن الحارث ما اتقى الله من أحب الشهرة وقال الإمام أحمد رحمه الله أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف وقد بليت بالشهرة ولما بلغ الإمام أحمد بلغ الإمام أحمد أن الناس يدعون له قال ليته لا يكون استدراجا. وقال مرة يخاطب تلميذه لما بلغه مدح الناس يا أبا بكر إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. وقال مرة لشخص آخر عندما بلغه دعاء الناس قال أسأل الله ألا يجعلنا مرائين. Et regardez quelques exemples qui montrent comment les salafs détestaient à se faire voir et à se faire entendre et à être connus. Ayyub al-Sirtiyani rahimahullah disait on parle de moi et qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on ne parle pas de moi. Il a dit une fois Shu'ban, ses élèves, il a dit des fois je marchais avec Ayyub et il ne me laissait pas marcher avec lui. Ayyub al-Sirtiyani, il ne me laissait pas marcher avec lui. Il passait par-ci, il sortait par-là afin que personne ne le remarque. Yani, il prenait des chemins bizarres, des raccourcis dans des ruelles pour pas qu'on le voie et pour pas qu'on fasse attention à lui. Et Hamad ibn Salama, rahimahullah aussi, il disait, je marchais avec Ayyub et il prenait des chemins, wallah, je comprenais pas comment il les trouvait. Il prenait des chemins, je comprenais pas comment il les trouvait. Pourquoi? Pour échapper aux gens au fait qu'ils le reconnaissent. Oh, c'est Ayyub. Bishr ibn Harith, il disait, celui qui aime la célébrité, il n'a pas craint Allah. Imam Ahmad rahimahullah, il disait, des fois, je voulais marcher dans les ruelles de Mecca afin de ne pas être connu. Et j'ai certes été éprouvé par la célébrité. J'ai certes été éprouvé par la célébrité. Et lorsque Imam Ahmad il a appris que les gens invoquaient Allah en sa faveur, il a dit, si seulement ce n'était pas un acheminement. C'est quoi l'acheminement? Un istidraj. C'est quand العبد مقيم على معصية الله ولا يعاقبه الله على ذلك. L'acheminement, c'est quand il y a quelqu'un qui est récidive, qui est constant dans la désobéissance d'Allah, mais Allah ne le punit pas encore. Il le fait acheminer jusqu'à ce qu'il se sente à l'abri. Jusqu'à ce qu'il se dit quoi? Ah bah c'est bien, je désobéis à Allah tout le temps et j'ai pas de punition. C'est bien, tranquille, je suis à l'abri. Et c'est là qu'Allah y frappe. Inna Allah yumhilu wa la yuhmi. Allah y laisse, mais il n'est pas insouciant. Hatta idha akhadha adh-dhalima lam yuflit. Jusqu'à ce qu'il punisse l'injuste, il ne lui échappera pas. Donc quand quelqu'un fait des désobéissances et qu'il voit qu'il ne lui arrive rien, faut pas qu'il se dise, oh, c'est super. Je désobéis à Allah, il m'arrive rien. Là, ça cache un acheminement. Et Imam Ahmad, rahimahullah, il lui dit, il y a Cheikh Abshir, réjouis-toi, les gens invoquent Allah pour toi. Et lui disait, Allahu musta'an, j'ai peur que ce soit d'acheminement. Donc Ahmad, c'était juste les invocations des gens en sa faveur. Et l'autre fois, il a dit, quand ses élèves lui disent, Imam Ahmad, il y a Cheikh, les gens, ils t'aiment, ils invoquent Allah en ta faveur. Il a dit à Abu Bakr, à son élève, quand la personne ne connaît sa valeur, ça lui sert à rien de savoir ce que les gens disent de lui. Quand les gens savent comment ils sont, quand tu es chez toi entre quatre murs et que tu fais ce que tu fais, et que tu sais ce que tu fais, on peut dire ce qu'on veut de toi, tu sais comment t'es. Les gens viennent te voir, ah, mashallah, comment t'es bien, comment t'es ci, comment t'es ça, tralala, tralala. C'est ça. Celui qui connaît sa valeur, qui connaît sa personne, qui connaît son âme, qui sait comment il est quand il est tout seul, qui ne se va pas berner par la parole des autres. Parce qu'ils ne savent pas comment t'es quand t'es tout seul. Ils ne savent pas qu'est-ce que tu fais quand t'es plus avec eux. Et une autre personne, elle a dit à l'imam Ahmed toujours que les gens, ils invoquaient Allah en sa faveur. Ils disaient, je demande à Allah de ne pas faire de nous des ostentateurs. Je ne sais pas si ça se dit, mais freestyle. Al-Muhim, regardez comment les salafis, ils prenaient ces choses-là. Et nous, Amin, tu lui diras barakallahu fik. Troisièmement, التفريط في حلقات العلم. كان سلفنا يقولون العلم يؤتى ولا يأتي وحق لنا أن نقول إن العلم الآن يأتي ولا يؤتى إلا من القليل فحلقات العلم التي تعقد والدروس التي تقام إن لم نستغلها فسوف نعظ أصابع الندم فيما بعد ولا تحين مندم. فهذه الحلقات لو لم يكن فيها إلا أن السكينة تنزل على حاضريها والرحمة تغشاهم والملائكة تحفهم وقبل ذلك يذكرهم الله في من عنده لكان ذلك كافيا في حضورها. فكيف إذا كان صاحب الحلقة سيحظى إن شاء الله بفوزين بالتحصيل العلمي وبالأجر الأخروي. Troisième obstacle, le fait de négliger les assises de rappel. Les assises où des cours sont donnés. Les salafs disaient avant, la science, on se déplace vers elle, et ce n'est pas elle qui vient vers toi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? La science, aujourd'hui, c'est elle qui se déplace vers toi, mais il n'y a personne pour aller vers elle. La science, aujourd'hui, c'est elle qui se déplace vers toi, mais il n'y a personne pour aller vers elle. Sauf d'une minorité. Toujours une petite minorité. Alhamdulillah, aujourd'hui il y a des assises de science qui sont ouvertes, ainsi que des cours qui sont donnés. Et si on ne saisit pas l'occasion aujourd'hui, bientôt on s'en mordra les doigts de regret. À un moment le regret ne sera plus utile. Ces assises, le simple fait que la quiétude descende sur ceux qui s'y trouvent et que la miséricorde les recouvre et que les anges les entourent, et avant tout cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'évoque auprès de ceux qui sont près de lui, ça seulement ça suffit comme bonne chose pour être présent. Des fois c'est à la mosquée après l'asr maintenant. Et l'imam, ou bien un frère, il fait un dance, tu te regardes comme ça, tu te montres, oh là là, c'est l'heure de, je sais pas moi, c'est les foot. Je pense à quelle heure ça passe, mais je dis comme ça. Vas-y, dance tout à l'heure, Inch'Allah. Il se lève et il part. Voilà. Wazen, il a pesé. Il a estimé que ça, c'était plus lourd que ça. Alors, il a opté pour l'autre option. Combien de fois, des gens, ils n'ont rien à faire. Sarahatan. Ils n'ont rien à faire. Ils laissent le dars à la mosquée et ils sortent. Des fois, le pire, tu les trouves à la sortie de la mosquée, debout, en train de discuter de tout et de rien, et il y a un dars à la mosquée. Ils sont là, ils sont pris à la mosquée. Il y a un dars. Ils se lèvent, ils partent, ils restent devant la porte de la mosquée. Et rubbama, rubbama tajiduhum wa anta hadarta darsa wa antaha darsu thumma kharajta min al masjidi. ربما تجدهم ما زالوا قائمين يتحدثون وربما عدت إلى منزلك ولا زالوا قائمين في مكانهم يتحدثون. Et peut-être le danse va finir et toi t'as assisté au danse et eux ils sont en train de discuter dehors et toi tu sors de la mosquée et ils sont toujours en train de discuter et tu rentres chez toi et tu dis ah le frère je vais lui dire un truc, tu prends ton téléphone, arrêtez-vous là, ah, je vais dans la mosquée encore. Cette personne-là, elle est privée. Et il ne s'en rend même pas compte. Que dire alors, après toutes les vertus qu'on a citées pour celui qui assiste à ses rappels, à ses assises, que dire alors quand il gagne deux fois plus? Il gagne tout ce qu'on vient de dire, la récompense dans l'au-delà, plus l'acquisition de la science. Nourun ala nour. Une lumière sur une autre lumière. Quatrièmement, التذرع بكثرة الاشتغال أو بكثرة الأشغال. هذا العذر جعله الشيطان حاجزا منيعا. وكم كلم إخوة أو أحبة وحثوا على طلب العلم. لكن الشيطان سول لهم ولبس عليهم. فالمفرط جعل الأشغال ذريعة في التغيب عن حلقات العلم. وجعل في هذه الأشغال التماسا للمعاذير حتى يجعل لنفسه تأويلا مستساغا في نظره فيكون في تركه لطلب العلم حجة وهذه الأشغال هي سبب رئيس
في منع الطالب من حلقات العلم ومن تعطيل كثير من العلم، لكن من فتح الله على بصيرته ورتب أوقاته واستغل ما يستطيع فإنه سيحصل كثيرا. ولسان حال أولئك الذين انتفعوا من ترتيب أوقاتهم يقول: ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه.
Quatrièmement, prétexter la multitude d'occupations. Yani les gens ils te disent je peux pas prendre l'ascension, je suis trop occupé. Cette excuse, Satan il en a fait une barrière empêchant le croyant d'apprendre la science. Combien de frères qu'on apprécie et qu'on aime et qu'on essaye d'inciter à étudier la science, on leur a parlé. Mais Shaitan les a embobinés et les a trompés. L'insouciant, c'est celui qui fait de ses occupations un moyen pour s'absenter dans les cours qui sont donnés. Et il fait de ses occupations une excuse lui permettant de dire « Ah, je ne pouvais pas venir. » À un point où, en lui-même, il est convaincu que c'était une bonne excuse et qu'il n'a rien à se reprocher. Pour lui, le délaissement de l'apprentissage de la science à cause de ses occupations, c'est une excuse valable. C'est une excuse valable qui va justifier le délaissement de l'apprentissage de la science et qui ne va pas lui faire éprouver du regret quand il verra la science qui lui est passée sous le nez. Comme un frère, franchement, la salaire, ça me rappelle, c'est un peu déplacé, mais il y a un lien. Quand je travaillais il y a une dizaine d'années à la SNCF, donc on travaille les 3-8. Et donc les trois horaires, chaque semaine on avait donc matin, midi, matin, soirée et nuit. Un vendredi, je commençais à 14h. Comme c'était l'été, ça tombait en pile poil avec l'heure de Jumu'ah. J'étais voir un chef, je dis voilà, demain je viendrai en retard d'une heure. Cette heure-là, je la rattraperai le soir, je partirai une heure plus tard. Il m'a dit pas de problème. Alors, alhamdoulilah, je vais faire Jumu'ah. Et j'arrive au travail, je tombe sur un papa, un Marocain. Il me regarde comme ça, il me dit, pourquoi t'es arrivé à cette heure-ci? Après, je lui fais une salat le jour. Lui, il est venu au travail, hein, c'est des années qu'il travaille là-bas, ils n'ont jamais eu l'idée de demander de ne pas venir faire le jour. Hein, de ne pas venir une heure pour faire le jour. Alors que c'est vraiment le genre de travail où tu peux faire ce que tu veux en termes d'heures, c'est très flexible. Al-Muhim, je lui dis, j'étais faire un salat, Jumu'ah. Ah, il m'a dit, Zian, Allah, Allah, Rda Alek, tout ça. Après, on s'est regardé, il y a eu un silence, genre, et toi? Il m'a dit, oui, on a, rak'araf, khidma, lakin, Rasul yqul, khidma, ibada. Ah, il me dit, t'as vu, tu sais très bien le travail, mais le prophète dit, le travail, c'est l'adoration. Je dis, le khidma, ibada, idha kana fi ta'atillah. أما إذا كان في معصية الله فهي ليست عبادة بتاتا. Le travail, c'est une adoration quand elle est sous l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais si elle est sous sa désobéissance, c'est pas l'adoration, t'as vu ça ou toi? Mais pourquoi je dis ça? Parce que lui, il s'est rassuré. Il a trouvé une excuse avec le travail pour délaisser le Jumu'ah. Et nous, ces gens-là, nous tous ici, presque on les méprise. On dit, mais yachemch. Il n'a pas honte. Même pas, ça fait des années qu'il travaille là-bas. Et Fialan, c'est vrai, cet homme-là, ça faisait des années qu'il travaillait là-bas, des 20 ans peut-être, minimum. Et il n'a jamais pensé une fois à demander à son patron de venir un peu plus tard pour faire le Jumu'ah à chaque. Et quand il te voit arriver, ça fait même pas un mois que t'es là, tu vas, tu demandes de faire son Jumu'ah, et on te le donne. Il fait, oh mince, faut que je prépare le coup. Alors il te sort son argument qui tue. Le hadith préféré des papas. Le verset préféré des papas, c'est « Wala tansa nasibaka min ad-dunya ». N'oublie pas ta part de ce bas monde. Et le hadith préféré des papas, le khidma ibad. Le travail, c'est l'adoration. Allahu musta'an. Al-Muhim, on est tous occupés, les frères. Tout le monde a des occupations. Les frères mariés, il y a d'autres frères qui sont mariés. Les frères qui ont des enfants, il y a d'autres frères qui ont des enfants. Les frères qui travaillent, eh bien, il y a d'autres frères qui travaillent. Mais le frère qui ne travaille pas, qui n'a pas d'enfant et qui est encore moins marié, et qui vient me dire que je suis occupé, je te moque de moi ou quoi là? Moi je préfère, tu viens, tu me dis, écoute, akhil, c'est pas pour moi, Allah, musta'an, je fais d'autres ibadat. Je fais akhil, wafakak Allah. Ça va être facile. Au moins il est sincère. Au moins il ne cherche pas à montrer une image qui n'est pas la sienne. Amma il vient, il fait akhil, t'as vu, dar, j'avais un truc à faire et tout ça, t'avais quoi à faire? Tu voulais faire quoi? Regardez tes ongles, ils avaient la même taille. Moi, comme je disais, je regardais mes poils pousser. Hey, je suis cool, là. Qu'on arrête de se donner des images qui ne sont pas les nôtres. Qu'on soit nous-mêmes. Ça sert à quoi de que les gens t'apprécient pour une chose que tu n'es pas? À quoi ça sert? T'as gagné quoi? T'as rien gagné. Blax, t'as perdu. Ça sert à rien. Kanalik, des fois, quand on rentre dans le minhaj, qu'on est sérieux, mashallah, on suit le deen, on est content, j'ai l'impression qu'on se force. On se force à être quelque chose qui n'est pas nous-mêmes. Et ça, c'est une erreur, mes frères. Ta personnalité, c'est ta personnalité, mon frère. On ne doit pas tous être des clones. Comme une armée où tous les soldats sont habillés de la même façon, ils bougent en même temps. Les sahaba, radiyallahu anhum, kanu yatamayyazun bishakhsiyatihim al-mukhtalifa. Les sahaba, radiyallahu anhum, ils se distinguaient avec leur personnalité différente. Abu Bakr et Omar, c'était pareil. Uthman et Ali, c'était pareil. Abu Huraira et Abdullah ibn Abbas, c'était-il pareil? Naam, dans l'obéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et encore, وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلْ وَلَكِنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَتَمَيَّزُ بِشَخْصِيَتِهِ. Chacun d'entre eux se distingue de l'autre par sa personnalité. Et tant qu'alhamdulillah, tu n'es pas majboul ala ma la yurdillah, fabqa ala ma anta alayh. Et tant que tu n'es pas, ta personnalité, elle n'a pas des caractéristiques qui ne plaisent pas à Allah, alors reste tel que tu es. Reste. C'est comme des frères qui viennent voir quand ils ne peuvent pas rire. Vas-y, rire pas là, ça me touche le cœur. Ouais, frère, tranquille. Moi, ça fait 20 ans que je rigole comme un malade et là, tu veux que j'arrête de rigoler en 20 jours? Tu peux pas y aller. Pourquoi le Coran a été révélé en 23 ans, billah alayk? Pourquoi? S'il fallait faire comme ça, tu prétends qu'il faut faire, alors le Coran, il est en un coup, et écoutez, c'est pas notre problème si vous voulez pas changer d'un coup, c'est comme ça qu'on fait, et c'est tout. Là, il y a quoi? Là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était plus indulgent envers des nouveaux qu'il était envers des anciens. C'est normal. C'est comme des fois, il y a un frère, il vient me voir, il me fait, Akhi, je me sens mal, je me sens coupable. Des fois, ça m'arrive des petites mélodies qui me reviennent en tête, là, des trucs que j'écoutais d'avant. Des fois, genre, je bouge les épaules et tout ça. Ça me rappelle, j'étais aux Émirats, j'étais en famille, dans un centre commercial, et on rentre dans un magasin qui vend des vêtements, des jouets pour enfants. Il y avait de la musique en fond, mais je calculais pas. Et on marche comme ça, ma femme, t'as vu, les femmes, laisse-moi attendre devant un truc, là. Laisse-moi attendre devant le truc. Elle regarde dans tous les angles, après, elle ne le posait pas. Achète-le, je m'en fous. Elle m'a dit. Donc toi, en tant que bonhomme, tu galères derrière ta femme qui cherche à te caler dans le magasin, et les musiques passent, donc tu calcules pas, après il y a la musique, t'as abgri. Eh, malheureusement, c'est comme ça, mes frères. On a vécu en France, n'oubliez pas. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas toujours eu une chachia et une barbe. Hein. On s'est réveillé tard. Moi, à 19 ans, je mettais encore un 501 avec un paire de Air Max et mon pull Timberland. Ma casquette Lacoste et mon bouc. On vient de la cité. Al-Muhim. C'est comme ça, après j'entends une mélodie. Après les souvenirs. Franchement les frères, j'exagère pas si je vous dis que mes épaules ont failli bouger. J'ai dit à ma femme, oh là là, faut que je sorte, c'est une fitna là. T'as vu les femmes comme elles sont? T'as qu'il là, elle baisse les regards, regarde pas les femmes. J'ai dit, vous, les fitna, c'est que les femmes. J'ai dit, non, il y a une musique là, Allah, il se faut que je sorte. Et je suis sorti, j'étais attendre ma femme dehors. Al-Muhim, le frère, il me fait, ouais, après, je me sens mal, des fois, je suis comme ça chez moi, et j'ai des musiques qui me rentrent dans la tête. Elles reviennent dans ma tête. Ya, akhi, barakallahu fik. T'as combien d'années de dîmes? des années, je ne sais même pas si je peux dire des années, quelques mois. Et Harry, 20 ans, 15 ans, tu crois qu'ils vont partir en 2 mois? Franchement. Vous croyez qu'ils vont partir en 2 mois? Encore si vraiment on changeait complètement d'univers, on se retrouvait dans une montagne, il n'y a rien. Là, je pourrais comprendre le truc. Mais on reste toujours dans le même univers. C'est dans le bus, comme ça, t'attends qu'il arrive à destination, il y a la musique. T'arrives au travail, il y a un gars qui met le poste, il y a la musique. Tu vas à Carrefour, t'achètes des pommes de terre, il y a de la musique. Des fois, c'est comme ça, tu veux rien, ni personne, c'est parce que t'en mets, et il y a un abruti qui allume ça à son poste en bas de chez lui, en haut de chez toi, il, à fond. Ah, qu'est-ce que tu nous fais là? J'ai ça nous dans sa voiture. Al-Mohim. Donc, c'est dur de s'en défaire. C'est dur. Je suis arrivé, ils ne sont pas coupables. Alhamdulillah, ces choses-là, c'est des résidus qui restent dans ta mémoire. Inch'Allah, avec le temps, ils vont partir. Toi, tu es en train de laver ton vêtement. Et tu veux déjà qu'il soit sec? Finis de le laver. Finis de le laver, après mets-le à sécher, et quand il sera sec, ah, tu pourras le remettre. Il faut réfléchir comme ça, mes frères. Alors, on pourra revenir au frère. Vas-y, arrête de rigoler, là, tu rigoles trop, là. Ça dure, ça veut durcir le cœur. Je suis arrêté, toi, tu m'as l'air plus dur que la plus dure des montagnes, rien qu'en me disant ça. Il y a des frères, comment ils partent, tu sens comment ils sont durs. Ah, j'ai mal, hein. Pourquoi cette dureté, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi dur? Allez, on devrait être les plus heureux des gens, wallah. On est dans un des pays les plus affreux du monde, qui nous montre bien qu'ils nous détestent. Et alhamdoulilah, on accroche à la sunna. Alhamdoulilah, on porte la sunna. Alhamdoulilah, on revient aux ulama. Alhamdoulilah, on parle d'Allah et de son messager. Wallah, on devrait être les plus heureux du monde. Et c'est comme ça, crispé, énervé, on dirait, t'as la haine contre tout le monde. Même tes frères, tu les détestes, on dirait. Pourquoi? Les salafs, ils disaient de Muhammad ibn Sirin, rahimahullah. Ils disaient, kana yadhaku bin nahar wa yabki bin lay. Il riait le jour et il pleurait la nuit. Eux, ils ne rient pas le jour, ils ne rient pas la nuit et ils pleurent encore moins. Alors qu'on arrête, vous forcez pas, wallah. Vous forcez pas à être ce que vous n'êtes pas. Restez vous-même. Disait Ibn Mas'ud radiyallahu anhum, par les sahaba radiyallahu anhum, كانوا أبر هذه الأمة قلوبا فأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا. Les sahaba radiyallahu anhum étaient ceux qui avaient les cœurs les plus purs et ceux qui se forçaient le moins. Mais كلفش. Ne pas se forcer à faire un truc qui n'est pas de sa nature, qui n'est pas lui. Reste toi-même. Reste toi comme on t'est. Et ce qui ne plaît pas à Allah, change-le. Et ne désespère pas, si tu vois que tu n'y arrives pas du premier coup, c'est normal. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et plus la foi, elle est forte, et moins tu auras de mal à changer ce truc qui dérange. Mais la foi, elle ne se fortifie pas toute seule. C'est le fruit d'efforts constants et consécutifs. Al-Muhim, il faut pas s'inventer des fausses excuses. Et dire, je suis occupé, j'ai des trucs à faire. C'est ça. Ya akhi, wallah, 24 heures, t'as pas, une demi-heure, t'as pas. On arrête, wallah. Et comme il disait les savants, al-nafs, illam tushghilha bil-haqqi, shaghalatka bil-bati. Ton âme, si tu ne l'occupes pas avec la vérité, elle t'occupera avec des choses qui servent à rien, avec le faux. Mais il y en a, Allah Ta'ala, il leur ouvre les yeux. Alors, ils gèrent leur temps. Ils gèrent leur temps. Et ils profitent de tout ce qu'ils peuvent. Dès qu'ils voient un dos, ah c'est bon, j'ai une petite demi-heure devant moi, eh bien ils profitent comme ils peuvent. Ben, celui-là, Inch'Allah, il réunira beaucoup de sciences. Et ceux qui ont profité de leur temps, lorsqu'ils ont su le partager, ils disent, وَمَنْ لَمْ يُجَرِّبْ لَيْسَ يَعْرِفُ قَدْرَهُ. Celui qui n'essaye pas, il ne peut pas savoir la valeur, ni la quantité, le temps. Essaye de diviser ton temps, et si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas le temps que tu as pour cette chose. فَجَرِّبْ تَجِدْ تَصْدِيقَ مَا قَدْ ذَكَرْنَا. Essaye et tu verras que ce qu'on a dit, c'est vrai. Tu verras que ce qu'on a dit, c'est vrai. Cinquièmement, c'est à quelle heure, Zohar? Pardon? Ah, j'ai eu peur, je sais que vous avez dit moins 10, c'est midi moins 10. Petit verre d'eau? Vous avez préféré le coupable? Pour rester sur ce point, vous savez, beaucoup d'entre nous travaillent dans des sociétés, frère, excusez-moi, des fois j'oublie vos prénoms, je suis désolé, je me rappelle de vos visages, mais j'ai du mal à retenir tous les noms. Des fois j'oublie même les visages, voilà, chou ma gars. Il y a un frère, il vient me voir hier, il fait « Rick, comment tu vas ?»« Ça va, tu vas bien ?» Il fait « Tu te rappelles pas de moi ?» Je fais « Non. » Parfois là, je me sens mal quand ça se passe ces choses-là, mais après, qadalallah, excusez-moi. Donc, je vous dis, il y a des gens qui travaillent dans des sociétés, et quand vous cherchez bien, franchement, en France, il y a des techniques, sans être dans l'illégal, hein, je vous rassure, hein, qui permettent de gagner du temps. De plein de moyens, c'est vraiment différent. Il y a certaines sociétés qui, quand tu connais les rouages de la réglementation, te permettent de travailler à mi-temps. Tu vas me dire, oh, mais attends, la paye, elle va être divisée par deux. Non. C'est un complément par là. La caisse des allocations familiales. T'as certaines sociétés dans lesquelles t'as le droit de prendre une année sabbatique. Pour ceux qui ont des enfants en bas âge, on peut prendre un congé parental. Un congé parental. Toujours à la CAF. Tu restes dans ton travail et tu prends un congé parental jusqu'aux 3 ans de ton dernier enfant. Et donc tu ne travailles plus, mais tu es toujours dans cette entreprise, tu ne peux pas se virer pour ça. Et la CAF te donne 70 ou 75% de ton salaire. Al-Muhim, franchement, mes frères, il y a plein de techniques. Je ne parle même pas des RSA. Donc, mes drôles, je ne vous pas le droit de parler sur. Yarhamukallah. Ceux-là n'ont pas le droit de parler. Et je ne parle pas des intérimaires non plus. Moi, je connais un frère. Il travaille le temps qu'il faut pour avoir les assédiques et il s'arrête de travailler. C'est l'intérim. Et il arrête de travailler et il étudie. Lorsque ces assédiques finissent, il repart travailler ou à Hakad. Donc dire qu'en France, on n'a pas les moyens de trouver du temps. T'as vu celui-là ? Ça l'a raconté. Moi, personnellement, pour rester dans... Je raconte ma vie, je raconte beaucoup ma vie. Hein. Je travaillais avant à l'aéroport de Roissy, dans la région parisienne. Et à Roissy, tu travailles 8 heures, d'accord. Mais tu travailles pas 8 heures non-stop. Tu vas faire un avion, ça va durer une heure, tu vas t'asseoir pendant une heure. Si vous saviez le nombre de livres que j'ai lus pendant les heures où je travaillais pas, où j'étais au travail, ça va arrêter de croire, j'ai lu toute la bibliothèque de Médine, là. Mais le moyen, j'ai lu beaucoup de livres, alhamdoulilah. Et au minimum, si tu ne peux pas lire, tu as ton Walkman. Il faut avoir son MP3, son Walkman. À l'époque, il n'y avait pas d'MP3 encore. Hein, ton Walkman et ton dab dans les oreilles. Et tu fais passer la cassette en boucle. Ne crois jamais qu'écouter une cassette une fois, c'est suffisant. C'est faux, 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 archi faux. Écoute-la en boucle 10 fois, 15 fois, 20 fois, comme avant quand tu écoutais Ayam, tu l'écoutais 10 fois, 15 fois, 20 fois. Une fois, je me suis arrêté à un feu rouge, j'ai vu un jeune miskin, il m'a fait pitié, voilà. Il avait un gros casque dans les oreilles, tout seul au milieu de nulle part. Il était à fond dedans, en train de bouger les doigts, miskin, on aurait dit un singe. Mais ils s'en foutaient de l'environnement qu'il y avait autour de lui. Tu sais, tout le monde regardait comme ça, lui était comme ça. Non. Mais qu'est-ce que t'es ridicule quand tu fais du rap? Mais le problème, c'est que tu te rends compte que après. J'avais pendant. Pendant de filmer, on regarde ta tête. Je vais m'en servir toute la honte. Al-Muhim. Pour vous dire quoi? C'est quoi le truc? C'est regarder. Pourquoi tu mets pas ton casque pendant que tu travailles? Hein? Si tu veux pas lire. Tu veux pas lire, Naam. T'es occupé avec tes mains. Je dis ça parce que je parle des frères qui font comme moi des travaux manuels. Les intellectuels, c'était pas pour nous. À l'école, on préférait le chauffage que le tableau. Alors, on n'a pas eu des diplômes qui nous permettaient de travailler dans un bureau. Alors, on déportait des sacs, on déportait des trucs, on déportait. Comme des esclaves. Mais, Mohim, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ton Walkman pendant que tu travailles? Rien. Et pendant que tu t'assois, qu'est-ce qui t'empêche de bouquiner? Rien. Donc, si on gère bien son temps, Wallah, on y arrive. Wallahi, on y arrive. Cinquièmement, التفريط في طلب العلم في الصغر. إن الإنسان لا يغبط أناسا أصغر منه سنا وأكبر همة تجدهم من السباقين إلى حلقات العلم. نعم يغبط أولئك ويتحسر على أوقات ذهبت من عمره ولن يستغلها في الطلب والحفظ، فإذا ما كبر وكثرت أشغاله وكثرت الطوارق عليه آناء الليل وأطراف النهار تعكر مزاجه ولم يستطع أن يتهيأ للتحصيل كما لو كان صغيرا خاليا من الأشغال. ولهذا قال الحسن: طلب الحديث في الصغر كالنقش على الحجر. ورضي الله عن عمر عندما قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال أبو عبد الله وهو الإمام البخاري رحمه الله: وبعد أن تسودوا وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبار سنهم. فبادر أخي قبل أن تبتلى بالناس إلى آخر. Donc cinquièmement, la négligence de la quête de la science quand on était petit ou plus jeune, si vous voulez. Excusez-moi, des jeunes hommes, j'ai quelques enfants apparemment. Mais la plupart d'entre nous avons entre 20 et 30 ans, voire un peu plus. Je vois pas non plus l'impression de voir des frères plus vieux. On va dire 40 ans, il y a la maximum. Donc, la négligence de l'apprentissage dans des... Hein, je vois les frères, ils rigolent. Ah bah tu les fais pas, machallah.
Non, c'est pas moi, c'est pas moi.
Ah d'accord. الشافعي رحمه الله جزاء ليس من المروءة سؤال الرجل عن عمره. ليس من المروءة، ce n'est pas digne de la personne de demander aux hommes, aux autres quel âge ils ont. Ça peut les comment dire, les gêner. Ça peut les gêner. Des fois, il y a quelqu'un qui a un certain âge, il n'aime pas qu'on sache qu'il est vieux, et quand on dit t'as quel âge, j'ai 47 ans. Alors qu'autour de lui, il y a des frères qui ont 20 ans. Et des fois, le contraire. Quelqu'un qui est jeune au milieu de vieux, enfin de gens qui sont plus vieux que lui, et n'aime pas qu'il soit le plus jeune. Moi, quand j'ai commencé à côtoyer la mosquée, pendant facile 7-8 ans, j'ai toujours été le plus jeune du groupe de frères que je côtoyais. À un point, une fois, un frère, il me fait: t'as quel âge, toi? Je lui dis: j'ai 21 ans. Enfin, j'avais 21 ans, j'ai plus 21 ans. Il me dit, il parle à l'autre frère, il fait: oh là, on traîne avec des gamins. Ah, le semi est monté direct. Mais alhamdoulilah, j'ai dit répondant. Moi, à 21 ans, j'étais déjà marié, travaillais, j'avais mon appartement. Lui, il en avait 29 et il avait rien de tout ça. Chez papa, travaillait pas, et maman, on mange à quelle heure? Je dis: écoute, cousin. Je dis: moi, j'ai 21 ans. Je suis marié depuis 2 ans maintenant et j'ai mon appartement et j'ai du compte à rendre à personne. Quand je rentre chez moi, j'ouvre mes factures et je les paye. Avec l'argent que je gagne en travaillant. T'as quel âge, toi? Fabouhit alladhi takallam. Bouhit. T'as plus rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais après, prends-le pas mal, je rigole, laisse. Tranquille, moi, je le prends pas mal. C'est toi qui le prends mal. Al-Muhim, parenthèse. Donc, quand on était petit, ou plus jeune, des fois, regarde. Toi, t'arrives, t'as un certain âge, t'as 30 ans, maintenant, j'ai 30 ans aujourd'hui, moi, et t'arrives dans une halqa, y'a que des petits. Y'a que des petits, ils sont en train de prendre le Coran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ou bien des hadiths et tout ça. Petit, subhanallah. Quand j'étais petit, moi, c'était Dragon Ball Z et les Chevaliers du Zodiac. Et eux, c'est le Coran et le hadith. C'est comme quand tu vois des enfants, moi j'étais en Égypte. J'ai inscrit mon fils, qui avait 3-4 ans à l'époque, dans une maternelle qui s'appelle Rawdatul Fusha. C'est une maternelle où ils ne parlent qu'en Fusha aux enfants. Attends, ça s'arrête pas là. Ils leur font apprendre des moutoun ilmiya. Al-Arba'in al-Nawawiya, Sunnam al-Wusul, Nouni al-Qahtani. Voilà, j'ai vu des enfants de 6 ans de rester Nouni al-Qahtani, c'est comme ça. Des petits qui sont nés en France de parents français. Hein. J'avais un ami, un frère là-bas belge, c'était mon voisin. Sa fille, quand il s'est installé après moi, Elle parlait pas un mot d'arabe. Elle parlait pas un mot d'arabe. Après 8 mois dans cette maternelle, elle avait une petite copine américaine qui s'appelait Aïcha, je me rappelle. Et cette fille, cette petite fille belge, elle s'appelait Inès. Saddiquni ya ikhwan, ils se parlaient entre elles en fosha. T'as vu les dessins animés en fosha, tu regardes à la télé, c'est la même chose. Ma ra'yuki ya Aïcha law dhahabna ila al-hadiqati? Hayya bina ya Inès. Wallah, on dirait un dessin animé. C'était agile. Alors qu'il y a 7 mois, elle ne parlait pas un mot d'arabe, la petite. Allahu Akbar. Et toi, t'es comment? Tu dis, punaise, moi, 7 ans, n'importe quoi. Tu me parles, demandez-moi comment s'appelaient les bonhommes dans tel dessin animé, je te connaissais, c'est tout par cœur. Je ne sais même pas si à cet âge-là, je connaissais une sourate. Je crois pas. Non. Je ne sais même pas si je savais que le Coran existait. Donc là, toi, t'es là, et t'es jaloux. Une bonne jalousie, bien sûr. T'es jaloux. Et tu dis, punaise, qu'est-ce que j'ai perdu comme temps quand j'étais jeune. Quand j'ai commencé à aller à la mosquée, je devais avoir 16 ans. Et je me suis assis une fois dans la mosquée. Et il y avait justement, on était plus qu'à dire, hein. Enfin, moi, on était dedans, avec eux, en compagnie d'eux. La mosquée, c'était où, on ne connaissait pas Tablir, Khoroj, je ne connaissais pas. Al-Muhim, tu viens, tu t'assois, il y a une halqa. Et après, il a fait, bon, tout le monde a resté une sourate. Tout le monde. Moi, je connaissais 3 sourates. Fatiha, il a déjà Nasrullah et Qulhu Allah, pas plus. Alors j'étais dans ma tête, j'attendais mon tour et je récitais dans ma tête, je sais pas me tromper, de pas oublier. Mais vachement, c'est difficile. Hein. Mon tour il arrive, il a déjà Nasrullah et Fatiha. Allez, c'est bon, ça finit, c'est super. Plus tard, il y a un petit, il avait 11 ans. Il était assis en tailleur, la tête baissée, et il a récité longtemps. Une belle voix, mashallah. Je l'ai regardé comme ça. Oh, j'étais impressionné. Quand il finit, j'ai oublié tout ce qu'il y avait autour. Je vais le voir. Tu connais combien de sourates? Tu sais, à l'époque, tu sais pas c'est quoi, his de jouz. Toi, tu comptes en sourates. Mais je sais pas. Ah bon. Moi, je connais 13 his. Je sais quoi un his? Je sais pas c'est quoi un his. Déjà, his, c'est à peu près 10 pages. Après, je vais attendre 10 fois 13. 130 pages! J'étais prendre un mashaf, j'ai compté, j'ai vu. Tu connais tout ça? T'as 11 ans? Moi j'en ai 17, je connais 3 sourates. Ça y est, je rentrais chez moi, j'arrivais plus à penser à autre chose. Ah, je commençais à apprendre un petit peu. Le ramadan il arrive. J'arrive à Idazul Zilati. Al-Ardo Zilzala. Super content, je vais à la mosquée avec mon père. Je sais pas, c'est quoi? J'ai appris Idazul Zilati, Al-Ardo Zilzala aujourd'hui. Il dit, ah, c'est super. Genre en gros, je parlerai à mon cheval. On va à la mosquée. On prie, l'imam, c'était un frère qui avait à peu près mon âge. Hafid le Coran, il a pris le Coran en Pakistan, il ne se trompait pas sur une lettre. Et c'était le soir où il finissait le Coran. Et il nous a fait du al-khatm, on est resté, je crois, 3 quarts d'heure. On avait mal aux genoux, on avait marre, finis s'il te plaît, arrête. Bref, on finit. Ah, je voulais, jamais. On sort de la mosquée, donc je mets mes chaussures, on parle à côté de moi. Mon gars, il fait, Dazul Zilati, regarde lui, regarde. Mais ça m'a mis un coup de fouet. Je suis rentré chez moi, je dis, je vais prendre le Coran. Et j'ai appris le Coran 2 ans plus tard. Donc c'est bien cette ribta, mais il faut qu'elle soit nafia. Cette envie, cette entre guillemets jalousie, parce qu'il y a une différence entre la bonne jalousie et la mauvaise jalousie. La ribta, c'est quand tu envies ton frère pour un khayr. Un khayr qu'Allah lui a donné, tu ne veux pas qu'Allah lui enlève. Al-hasad, c'est quand tu envies ton frère pour un ni'ma dunyawiya et que tu veux qu'Allah lui enlève. Donc toi, tu es comme ça, et tu dis, subhanallah, et tu penses au passé. Akhir qaddar Allah ma sha'a fa'al. C'est la sagesse d'Allah, azza wa jalla. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Mais tu regrettes. Tu dis, subhanallah, j'avais le temps. J'étais insouciant. Et même maintenant, ça s'applique pas que quand on était petit. Hatta l'an. Comme je vois la plupart d'entre vous, vous n'avez pas des cheveux blancs. Hein? Du moins, pas recouverts. Je vois que des gens, machallah, jeunes devant moi. Donc, ça s'applique encore à ce que nous disons. Ça s'applique encore à maintenant. Mais on laisse le temps passer. Et un jour, on se réveille, on ouvre les yeux, et on est plus vieux. Et on est occupé. Et on a plein de choses à faire, le jour et la nuit. ça y est, je ne peux plus donner du temps pour l'ilm. Tu t'es réveillé trop tard. C'est pour ça qu'il faut profiter de son temps quand on est jeune et petit. Quand il y a des frères qui viennent me voir, ils me disent 17 ans, 18 ans, comment je les envie, wallah. Il vient voir une farine, tu me conseilles quel pays, tu me conseilles le Yémen, le Maroc, tout ça. J'ai quel âge j'arrive? 18 ans, je dis, mashallah. Mashallah. Magnifique. Wallah, c'est super. Ah, je suis content, wallah. Qu'à 18 ans, t'as envie de partir. Si t'as 18 ans, là, tu pars au Maroc, Mathalène, quand c'est des Marocains, t'apprends le Coran là-bas pendant 2 ans, bien. T'as 20 ans, tu reviens, t'as 20 ans, tu pars en Égypte, au Yémen, ou bien encore mieux, si t'es pris en Arabie, ah, tu vas tout éclater, inshallah. Tu vas tout éclater. Tu reviens, t'as 25, 26 ans, t'es bien. Allahumma barik. Mais nous, les frères, ils ont 18 ans, ils pensent qu'au mariage. Le mariage. Oh là là, les frères, vous abusez, wallah. Bon, je vous parle du mariage à 19 ans, mais. C'est pas pareil. J'avais pas des grands frères pour me dire, faites pas n'importe quoi. Al-Muhim. Quand chercher celui qui est venu la dernière fois, on va dire, cher. À quel âge tu nous conseilles de se marier? Il a dit 30 ans. 30 ans. Moi, j'avais lu la Tarzaba d'un salaf, je sais plus comment il s'appelle, qui est parti de chez lui, il avait 18 ans, pour Talab al-Ilm. Il est revenu chez lui à 65 ans. Et c'est que là qu'il se marie. Bon, c'est pas en train de vous dire, attends, 65 ans quand même. Lakin, franchement, ne vous précipitez pas. L'appel des hormones, mettez vos doigts dans vos oreilles. C'est comme tout, hein. Ça vient et ça part. Des fois, tu penses qu'à ça, t'es préoccupé par tes hormones, je veux me marier. Et tu te rends compte que si tu attends un petit peu, ben tu t'y fais et puis ça passe. Et des fois, ça va revenir. Et encore une fois, ça va repartir. Qu'on parle pas son temps. Franchement, tu peux attendre quand même jusqu'à 25 ans. Pour ceux qui ont la vingtaine. Donnez un ou deux ans au talab al-ilm, safar. Wallah, c'est les meilleurs souvenirs de votre vie de voyager pour apprendre la science. C'est les meilleurs souvenirs de votre vie. Les meilleurs souvenirs que nous on a, c'est pas le jour de notre mariage, ou bien le jour de la naissance de nos enfants, ou bien autre chose. C'est quand on a été s'asseoir devant les chouyoukhs. C'est quand on a été s'asseoir devant un prof pour apprendre la science. C'est ça les meilleurs souvenirs. Quand tu t'assois devant Cheikh Al-Abbad, devant Cheikh Suhaimi, devant Cheikh Ubaid, devant les Cheikh Rabi', devant les chouyoukhs, et t'es comme ça, oh, ça y est, je l'ai vu, ça y est, je vois un savant. Je les ai entendus, maintenant je les vois. Et encore mieux quand tu me parles avec eux. Oh là, c'est t'aimerais que ça s'arrête jamais. Tu t'assois à côté de lui, tu dis, Cheikh Al-Samad, fais soin, fadal. Il m'a dit de fadal. Il m'a parlé. Tu sais, comme avant, et ça. Alors tu lui poses une question, il te répond. Et tu sais pas, j'ose en poser une seconde, j'ai peur, il est occupé, il doit partir et tout ça. Mais t'essayes quand même, t'as rien à perdre. Tu vois la cliché, là où la canne fait. Mais après, tu rentres en discussion aussi. Ça, les meilleurs souvenirs, wallah. Quand tu vas te marier, et que ta femme elle va dire, ah, je suis enceinte. Et que pendant 9 mois, elle va dire, je veux des raisins, je veux des pommes de terre, je veux ci, je veux ça, tu vas courir partout pour lui faire plaisir. Et que l'accouchement, il a lieu, que le bébé, il est un peu malade, il est un peu fatigué. Marbout. C'est-à-dire, je m'en ai marbout. Accroché, ligoté, menotté. T'as vu les Dalton avec leurs grosses boules aux pieds, là? Bah, c'est ça. Mais pas! T'es jeune, célibataire, pas! Un an, deux ans, trois ans, cinq ans, inchallah, allez. Ça sort pas un VDN et qu'apprends ton DIN. Et reviens, ça, t'as 25 ans, 26 ans, 27 ans. Bah, c'est bon, t'es encore jeune, marie-toi, mon frère. À ce moment-là, marie-toi, pas de problème. Et voilà, ce sera mieux pour toi. Parce que tu seras plus un rajoul qu'avant. Les frères, ils se précipitent, je veux me marier. Eh, les frères, faut être un rajoul pour se marier. Et un rajoul, c'est pas parce que t'as des organes génitaux hommes que t'es un homme. Un rajoul, bi ma'na al-kalima. C'est pas la sœur, tu dis, Ourti, je suis en galère, je peux me prêter de l'argent. Moi, il y a une sœur qui m'a appelé une fois. Elle me dit, je travaille, c'est moi, je paye le loyer. Attends, elle habitait dans son appartement avant qu'elle se marie. Et le frère, genre, il est là. Et attends, il menaçait la divorcer, il lui a dit, tu pars, c'est moi, j'ai à l'appartement. C'est normal, ça. C'est des trucs, franchement, où tu dis, si je les ai pas entendus de mes propres oreilles, j'y crois pas. Et ben moi, je les ai entendus de mes propres oreilles. Ainsi pour Allah. Et là, sans se tourner les pouces, se curer les narines, manger des cacahuètes, regarder téléfoot ou bien jouer à la PlayStation, sa femme est part, elle travaille. Normal. Elle revient, elle paye le loyer, elle fait les courses. En plus, elle doit faire à manger. Et laver ses affaires et faire la vaisselle. Et lui donner son haq, si vous voyez ce que je veux dire. Et après, m'a kiffé le mec. T'es un bonhomme, toi? Non. Wallahi. Je vais peut-être faire une bêtise. Mais je vais le faire comme. Dans Shah Hadiyat Salihin, le Cheikh Al-Uthaymin, rahmanallah. J'ai lu une chose étonnante. Elle dit, dans le hadith, qui parle de la punition de la femme lorsqu'elle se refuse à son mari. Dans les rapports intimes. Comme quoi, elle passe la nuit et les anges la maudissent. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux sœurs cette gravité. Comment est-ce que tu peux savoir que les anges passent la nuit à te maudire et ça ne t'empêche pas de dormir? Wallah, et pour celui qui a un peu le cœur vivant, quand sa mère elle est en colère contre lui, il n'est pas bien. Alors il sait que les anges, ces créatures pures et nobles, qui ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal, et dont les invocations sont agréées et acceptées d'Allah Subhanahu, elle passe, il passe la nuit à te maudire. La'natullahi alayk, la'natullahi alayk, la'natullahi alayk. Toute la nuit, tu dors, tu ronfles. Ajib. Voilà, les soeurs, il faut qu'elles réfléchissent un peu. Et qu'elles se mettent à la place des hommes. On est en France. Bilad al-fahsha'i wal-munkar. Wal-fuhshi wal-uriyi wal-ar. Les femmes, elles sont toutes nues dehors. Et wallah, t'as beau avoir une barbe, ça ne les dérange pas pour venir te faire des clins d'œil et te tenter et essayer de te séduire. Ça ne les dérange pas. Et toi, c'est t'akhshallah, wa taghudda basarak, wa tufakkiru fi halalik. Toi, tu crains Allah et tu baisses le regard parce que tu penses à ton halal qui t'attend chez toi. Et pourquoi tu dis, alayhi sallam, dans le hadith, quand un homme, il voit une femme qui lui plaît, qu'il aille chez lui et qu'il fasse, yani, qu'il copule avec la sienne. Car ce qu'il a vu chez l'autre, il l'a chez lui. Yani, sa femme, elle l'a aussi. Toi, tu passes ta journée dehors et tu te prends des barres de tous les côtés. Et c'est dur et tu tiens et tu patientes et tu crains Allah et tu baisses le regard. Et tu rentres chez toi et tu fais le halal avec ta femme. Bah, dis, ah, je suis fatigué, sois tranquille. Subhanallah. Ces sœurs-là, qu'elles n'allaient pas se plaindre quand elles apprendront un jour que leur mari a pris une deuxième femme derrière leur dos. Sans leur dire. Parce qu'en plus, ces sœurs-là, elles sont interdites de prendre une deuxième femme. Non, t'es à moi, tu fais rien, je m'en fiche, je veux que tu sois triste. On dirait que c'est ça qu'elle te dit. Et le pire, c'est quand ça va tellement loin que le frère il pense à faire zina. Wallah, il y en a des centaines, enfin je exagère parfois des centaines, mais des dizaines qui me disent parfois là, je pense à faire zina. J'en peux plus, frère. Je suis marié, ma femme elle me dit non, elle me donne pas mon haq. Et toute la journée je suis au milieu de femmes. Comment je fais moi? Je suis akhid taqillah. Mais les frères aussi, je comprends pourquoi ils s'accrochent. Pourquoi tu t'accroches? Jette là. Voilà, c'est vrai. Pourquoi tu t'accroches? Elle ne veut pas donner son haq. Tu vis avec une femme qui est maudite par les anges. Qu'est-ce que tu vas en tirer comme khayr? Tu vas en tirer quoi? Tu vas rester avec elle au point que tu vas faire zina? C'est pas pour ça que je me suis marié, moi. Je me suis marié pour pas faire zina, justement. Alors lui, il se marie, miskin, avec une bonne niya, et il se retrouve avec une femme qui lui dit non, je te donne pas mon haq. Ton haq, je veux dire. Et même des fois, les sœurs, elles disent, bon, vas-y, fais ce que tu as à faire. Elles sont en mode, excusez-moi le terme, étoile de mer. Genre, en gros, fais ce que tu as à faire et moi, je bouge pas. Ah, subhanallah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais il faut que les sœurs craignent Allah, tabaraka wa ta'ala. Bref, je reviens au hadith, la faïda du hadith. Les frères, s'il vous plaît. Le hadith, donc, quoi tu dis? La femme, lorsqu'elle donne pas son haq à son mari, elle passe la nuit et les anges, ils la maudissent. Cheikh Al-Hamid, il dit quoi? Il dit que si un homme, écoutez bien ça, les hommes, hein? Comme il disait savant, un savant, il disait, kulluna zukur, fahal kulluna rijal. On est tous des mâles, mais est-ce qu'on est tous des hommes? Cheikh Al-Hamid, il dit que si un homme, il donne pas son haq à la femme, le haq que la femme a sur l'homme. Si un homme ne donne pas son haq, yani, le kiswa, le ta'am, le mabit, la nourriture, les vêtements et le logement, eh bien la femme a le droit de se refuser à son mari, tant qu'il ne lui a pas donné son haq. Alors le frère qui lui a fait toute la journée, sa femme va travailler. Quel haq a donné à ta femme, lui? Encore pire quand l'appartement, il appartient pas à lui, il appartient à sa femme. Parce que c'était le sien, il est à son nom l'appartement. C'est un squatteur. Un squatteur. Et après, il va dire, ouais, ma femme, elle me donne pas mon haq, tu donnes ton haq, toi? Voilà, et les frères et les sœurs, ils ont tous des choses à se reprocher, tous. Qu'on arrête de pointer du doigt les sœurs, et que les sœurs arrêtent de pointer du doigt les frères. Parce que si on venait répertorier tout ce qu'on entend dans les problèmes de couple entre les salafis, les frères et les sœurs de France, c'est catastrophique. Catastrophique. C'est n'importe quoi. Les sœurs, elles font n'importe quoi, et les frères, ils font n'importe quoi. Illa man rahim Allah. J'ai essayé d'en parler dans des khotabs, j'ai dû en faire 3 ou 4, j'ai pas tout dit encore. Ça, je vais faire un séminaire, on parle que de ça. Séminaire sur les rapports conjugaux dans, chez les frères du Minhaj. Là, t'as vu les dames qui l'ont tué combien de temps hier? Ce sera 3 fois plus, 4 fois plus. Mais le pire, c'est qu'il faut faire ces choses-là. Parce qu'on fait tous n'importe quoi. On fait tous n'importe quoi, illa man rahim Allah. Donc je reviens au kalam, les parenthèses. Donc, on regrette tous le temps qu'on a perdu. Donc ne perdez pas votre temps, mes frères. Vous êtes jeunes, alhamdulillah. Certains parmi vous sont célibataires, d'autres ils sont mariés. Alhamdulillah, moi je suis parti, j'avais une femme et 2 enfants. Donc tout est, inshallah ta'ala, faisable et possible. On a le passeport français, et ben je vous assure que ça ouvre beaucoup de portes. C'est-à-dire, tu vas dans un pays, on se fait rentrer direct. Dans plein de pays, il n'y a pas que le passeport français, tu passes direct. Alors, franchement, mes frères. En plus, vous êtes dans le nord, pas loin d'ici, il y a la Belgique. Moi, je partais en Égypte, je partais de Belgique. Avec le, je sais plus quelle compagnie des avions là. Ça coûte pas cher, ça coûtait 79 euros un aller simple pour aller en Égypte. Tu peux partir un week-end, une semaine et tu reviens. Est-ce que, franchement, les frères, vous avez déjà pensé, pour ceux qui travaillent, le mois ou les 2 mois de vacances que vous avez dans l'année de partir faire Talab al-Ain pendant 2 mois en Égypte? C'est facile, voilà. C'est pas difficile, c'est pas dur, et c'est pas cher. Tu loues un appartement, tu te prends un prof particulier pendant 2 mois, et vas-y. T'as déjà pensé à faire ça? Non. Allez au Yémen, pourquoi pas? Pendant 2 mois? Si vraiment t'as pas le temps. Moi, c'est dans mes liens, Inch'Allah, ces choses-là. Je me dis, Bidnillah, si jamais j'ai un mois ou deux de libre, ben, j'essaierai d'aller faire un tour au Yémen, ou d'aller faire un tour en Égypte. Si on avait des iqamas longues, on irait en Arabie directement. Allez, moi, on profite comme on peut, le temps qu'on a. Parce qu'un jour, tu n'auras plus de temps. Quand tu auras 5 ou 6 enfants, et chez toi, ce sera le cirque. Il y en a un qui pleure, il y en a un qui crie, l'autre m'a tapé, l'autre m'a tiré, nanana, ta femme a dit, j'ai besoin de ça, ton patron t'appelle, t'as pas oublié de partir, oh là là, peut-être ça va exploser. Et là, tu vas faire salab al-ilm, ce sera plus possible. Donc, quand on a le temps, il faut en profiter. Quand le temps, on n'est plus là, on regrette, et ça ne sert plus à rien de regretter. Al-Hassan il disait, rahimahullah, apprendre le hadith dans la jeunesse, c'est comme graver sur une pierre. Tu prends une pierre et tu graves dessus. Omar radiallahu anhu disait, instruisez-vous avant d'être vieux, ou bien avant d'être occupé. Et l'imam Bukhari rajoutait cette parole, et même après être vieux. Parce que beaucoup de compagnons radiallahu anhum se sont instruits dans leur religion alors qu'ils étaient vieux. فبادر أخي قبل أن تبتلى بالناس وقبل أن تبتلى بكثرة المشاغل وقبل أن تندم كما ندم تندم كما ندم الكثيرون وعليك باستغلال وقت الصغر في الطلب ولا يعني هذا أن الإنسان يقنط وييأس إذا لم يتدارك وقت الصغر بالطلب بل إن العمر كله زمان لتحصيل العلم لأنه عبادة والله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Mon frère, précipite-toi, ne perds pas de temps avant que tu ne sois éprouvé et tenté par les gens, avant que tu ne sois éprouvé par la multitude d'occupations, avant que tu ne regrettes comme beaucoup, beaucoup, Allah, ont regretté. Tu dois saisir ton temps et profiter de l'occasion alors que tu es encore jeune pour demander, pour demander la science. Et ceci ne veut pas dire que tu dois désespérer si jamais tu n'as pas pu apprendre la science quand tu étais jeune. Mais là, ça y est, ils se réveillent malheureusement, ils ont un certain âge. Alors que tu entends ces paroles-là, tu dis c'est trop tard, ça y est, khalas, moi ils me parlent des frères mariés, moi j'ai 4 enfants, j'ai 5 ans, je vais faire quoi? J'ai 35 ans, 40 ans, je vais faire quoi? Ça ne veut pas dire désespère quand tu entends ces paroles-là. Jamais. Pourquoi? Parce que ta vie entière, c'est un moment dans lequel tu peux apprendre la science. Et la science, ça demande, c'est une adoration. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu atteignes la certitude, dernier la mort. Donc adore Allah jusqu'à ce que tu meurs. Et talabul ilm, c'est une ibadah, c'est une adoration. Donc appelle, apprends la science jusqu'à ce que tu meurs. Et vous vous souvenez de ce qu'on a dit hier, la même Ahmad rahimahullah, qui se baladait dehors, enfin qui marchait dehors avec l'encrier. Il nous dit jusqu'à quand tu iras avec l'encrier alors que tu as la barbe blanche et tu es un vieillard. Et jusqu'à la tombe. Jusqu'à la tombe. Et on rapporte, Ibn Abi Dunya rahimahullah, il a un kitab qui s'appelle Kitab Al-Muhtadarin. Ibn Abi Dunya rahimahullah, il a des kutub ajibah. C'est le livre de ceux qui agonisent. En fait, il a rapporté tous les athars qu'il a trouvés des salafs sur leur lit de mort. Et il y en avait un qui était en train d'agoniser sur son... Donc, en train d'agoniser. Et qui avait été visité par certains de ses élèves. Donc, vu qu'il agonisait, il souffrait énormément et des fois, il perdait connaissance. Et ses élèves, lorsqu'ils perdaient connaissance, pour ne pas perdre leur temps, on parle du temps justement, ils se rappelaient des hadiths. Chacun leur tour, il se rappelait un hadith. Alors, il y en a, il dit, ah, moi j'ai un hadith. Al-Qusayl, bien sûr. Akhbarana fulan, haddathana fulan, an fulan, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kala kala kala. Alors, pendant qu'il le récite, il entend un bruit derrière lui. Il se retourne, et il voit le shir, accoudé difficilement, en train d'écrire. Alors, il lui fait, shir, qu'est-ce que tu fais? Il fait, ce hadith que tu m'as cité, je ne le connaissais pas, alors je l'écris. Il dit, mais shir, tu es en train de mourir. Dans quelques temps, tu vas rendre ton âme à Allah, Azza wa Jal. Il a dit, et alors? Il a dit, j'aurais honte d'arriver devant Allah avec une science que j'ai pu obtenir et que j'ai délaissée. Et ina'am, les ikhwan. Al-himmatul ali. La vraie motivation jusqu'à la mort. Elle te lâche plus. C'est ça, le talib ilm. C'est ça, le talib ilm. Pour répondre à la sœur qui disait hier, quand est-ce qu'on peut attraper talib ilm? Ben, quand tu auras fait ça. Quand tu auras quitté ce bas monde, et ta himma, c'est d'apprendre la science. C'était de connaître le plus Allah tabaraka wa ta'ala. C'était de connaître le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa sunnah, les salafs, et de suivre leur chemin et leurs traces. C'est quand tu auras fait ta vie comme ça, et que tu mourras, wa nahnu hasab al-zahir, nahsabuka kadhalik naqul, kana taliban lil-ilm. Hein? Quand tu mourras, et que les gens ils parleront de toi en bien, et qu'ils diront d'après ce qu'ils avaient l'impression, ni de savoir vis-à-vis de toi, c'était quelqu'un qui apprenait la science. Un talib ilm. Donc il reste encore 5 points, ben, inshallah on les fera plus tard. Bi'inillahi ta'ala. Ce qu'on doit arrêter tout de suite. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم